VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 1er juin 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, élargissement de la grève des magistrats en solidarité avec un avocat agressé par les forces de sécurité.
En République démocratique du Congo, arrestation de militants qui manifestaient contre l'insécurité et les enlèvements de civils dans l'Est.
À Madagascar, mise en garde du ministre de la Défense contre une éventuelle intervention des forces de l'ordre en l'absence d'une solution rapide à la crise politique.
L'Union européenne promet une riposte aux tarifs douaniers des États-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium.
Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à Washington le bras droit de Kim Jong-un, porteur d'un message du dirigeant nord-coréen.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, les avocats, huissiers et notaires se joignent aux magistrats en grève dans tout le pays pour soutenir un avocat pris à partie par les forces de l'ordre. Les fonctionnaires tchadiens aussi sont en grève pour d'autres raisons. Le point avec Bagassi Koura.
Les avocats, huissiers et notaires du Tchad ont cessé leurs activités hier et jusqu'au 6 juin, ils prévoient une marche pacifique si le gouverneur, le commandant de la gendarmerie de la région de Doba ne sont pas relevés de leurs fonctions. Ils ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour dénoncer les multiples agressions dont sont victimes les acteurs judiciaires. Les magistrats avaient déjà cessé le travail pour protester contre l'agression le 22 mai à Doba d'un avocat par les forces de l'ordre. Maître Doumara Manassé avait dit avoir subi des tirs sur sa voiture alors qu'il transportait trois de ses clients relaxés. Selon lui, ils ont été tabassés et amenés à la gendarmerie de Doba. Le Tchad connaît par ailleurs, depuis le début de la semaine, une grève très suivie de la fonction publique qui a bloqué hôpitaux, écoles et ministères. Les fonctionnaires tchadiens réclament le paiement de leurs primes et indemnités.
En République démocratique du Congo, 16 militants ont été interpellés alors qu'ils marchaient contre l'insécurité et les groupes ou gangs armés qui enlèvent les civils dans l'est du pays, a appris l'AFP de sources policières et auprès du Conseil territorial de la jeunesse. Ils ont troublé l'ordre public, ils n'ont pas eu l'autorisation de marcher, ils sont entendus et seront déférés devant la juridiction compétente, a indiqué l'officier de police Blaise Dimundu, confirmant le nombre de 16 interpellations. Une vingtaine de civils ont été enlevés depuis vendredi dans le territoire de Rutshuru, au nord de la capitale provinciale Goma. Les ravisseurs demandent des rançons.
Un tribunal correctionnel de Dakar a mis hier en délibéré au 19 juillet son jugement au procès de 29 djihadistes présumés poursuivis pour des faits de terrorisme. La défense a clôturé ses plaidoiries jeudi. Elle a demandé l'acquittement des 29 prévenus, dont trois femmes, poursuivies pour actes de terrorisme par menace d'attentat, association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, apologie du terrorisme et détention d'armes sans autorisation. Les prévenus qui se sont exprimés ont tous rejeté les accusations à leur encontre.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a finalement signé le projet de loi accordant la possibilité aux jeunes de briguer la magistrature suprême ainsi que d'autres postes électifs. Les Nigérians doivent se rendre aux urnes en 2019 et de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler les jeunes à prendre les rênes du pouvoir et changer le pays. Les détails avec Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
La loi promulguée réduit de 40 à 35 ans l'âge pour briguer la magistrature suprême au Nigeria, de 35 à 30 ans pour le poste de gouverneur et de 30 à 25 ans pour les assemblées étatiques. À l'Assemblée nationale, le projet de loi avait été rejeté une première fois avant son adoption par la majorité des deux chambres. Cette loi était très attendue et les jeunes s'étaient mobilisés à travers le pays pour réclamer son adoption. Des marches de protestation ont ainsi lieu à Abuja, la capitale fédérale, et dans certains états de la fédération. Diverses organisations de la société civile nigériane ont mis la pression sur les parlementaires pour faire passer le projet de loi. C'est maintenant chose faite, mais certains Nigériens estiment qu'en réalité, l'âge n'est pas le problème. Ils y voient dans la nouvelle loi un moyen pour les enfants des élites ou des riches de bénéficier des hauts postes dès l'âge de 30 ou 35 ans. Considérant la situation politique du pays, ce projet de loi risque de favoriser les enfants des ténors de la scène politique, estime un analyste. Le président Buhari avait promis d'apposer sa signature sur le projet de loi durant son discours à la Nation mardi dernier, à l'occasion de la célébration de la journée de la démocratie qui marquait également ses 3 années au pouvoir. La signature de ce projet de loi intervient à quelques mois des élections générales et présidentielles de 2019 et le président Muhammadu Buhari, âgé de 75 ans, est candidat à sa propre succession. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Le ton monte à Madagascar. Le ministre de la Défense menace de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne trouvent pas rapidement une issue à la crise politique qui secoue le pays depuis plus d'un mois. Morgane Guiriec.
Nous incitons tous les responsables de cette crise qui veulent bloquer la vie de la nation à trouver une issue, a prévenu Beni Xavier Razolofonirina, ministre malgache de la Défense. Il a ajouté, faute de quoi, les forces de l'ordre interviendront comme dernier rempart de la nation afin de ne pas laisser le pays dans une situation catastrophique. Le 25 mai, la Haute Cour constitutionnelle a ordonné au président Herri Rajaonarimampian de nommer un premier ministre de consensus et un gouvernement d'union nationale en lui donnant un délai d'une semaine. L'opposition réclame depuis plus d'un mois la démission du chef de l'État. L'injonction de la Haute Cour a suscité la polémique. Son calendrier n'est pas clair et surtout le régime et les opposants revendiquent tous les deux la majorité à l'Assemblée. Les négociations entre les deux camps sont toujours au point mort.
En Libye, plus de 120 000 personnes sont bloquées à Derna où de violents combats opposent une coalition d'islamistes aux forces du maréchal Khalifa Haftar qui tente de reprendre cette ville de l'Est. Selon un rapport de l'ONU, Derna a subi des violences sans précédent au cours des dernières semaines, y compris des bombardements et des raids aériens. De graves pénuries de vivres, d'eau et de médicaments et aussi d'électricité sont signalées. Il n'y aurait pas eu de livraison d'aide depuis la mi-mars.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé hier les factions belligérantes au Soudan du Sud de sanctions si elles ne mettent pas fin à la guerre civile qui ravage leur pays depuis 4 ans et demi. La résolution présentée par les États-Unis a été approuvée par 9 des 15 membres du Conseil. Les 6 autres se sont abstenus, notamment la Russie, la Chine et l'Éthiopie, un acteur clé des efforts de paix dans la région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le général Kim Yong-chol, bras droit de Kim Jong-un, est attendu aujourd'hui à Washington où il doit remettre au président Donald Trump une lettre du leader nord-coréen après des progrès vers leur sommet historique. Pour le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, les discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord vont en effet dans la bonne direction. Raissa Girondin.
Des progrès, mais encore beaucoup de travail. C'est ainsi que Mike Pompeo aborde la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord avant le possible sommet Donald Trump-Kim Jong-un. Il n'y a pas de date précise pour ce sommet initialement prévu le 12 juin à Singapour. Après plusieurs réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Yong-chol, le chef de la diplomatie américaine a estimé que les deux pays allaient dans la bonne direction dans les discussions préliminaires à ce sommet. Je peux vous dire que de réels progrès ont été faits dans les dernières 72 heures pour établir les conditions de la tenue de la rencontre, a souligné M. Pompeo. Le général nord-coréen doit maintenant venir à Washington pour remettre une lettre de Kim Jong-un au président américain. Mike Pompeo a aussi souligné qu'il n'y avait pas de divergence entre Washington, Séoul et Tokyo dans ce dossier.
L'Union européenne promet de riposter aux importants tarifs douaniers que les États-Unis comptent imposer sur les importations d'acier et d'aluminium. Irénée Ergman-Ungbo.
Les Allemands sont plus frileux sur ces contre-mesures que les Français et les Néerlandais. Le secrétaire d'État français aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a qualifié les taxes américaines d'injustifiées et injustifiables, tout en appelant Bruxelles à répondre en prenant des mesures de sauvegarde et de rééquilibrage. Le gouvernement allemand estime que la réponse à l'Amérique d'abord sera l'Europe unie après la décision des États-Unis d'instaurer cette taxe douanière. De son côté, la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, a rappelé que l'Union européenne européenne avait fait tout pour éviter une confrontation, indiquant qu'elle a parlé ces derniers mois plusieurs fois au secrétaire américain au commerce Wilbur Ross. Les États-Unis ne laissent pas d'autre choix que de porter l'affaire devant l'OMC et d'imposer des droits de douane supplémentaires à des produits en provenance des USA. Cette procédure devant l'OMC, qui peut durer des années, devrait être lancée aujourd'hui même. Dès la fin avril, l'Union européenne avait préparé une liste de produits américains dont le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos qu'elle avait l'intention de taxer lourdement si elle était frappée par les droits de douane.
Selon Nikki Haley, représentante permanente américaine à l'ONU, les États-Unis mettront un veto certain au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité et qui réclame la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. Le vote d'abord prévu hier et a été finalement reporté à ce vendredi. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Fédération européenne de l'acier Eurofer condamne la décision de Washington d'imposer des droits de douane de 25% sur l'acier. Elle appelle la Commission européenne à adopter rapidement des mesures de sauvegarde larges et complètes géographiquement pour défendre le marché intérieur. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a estimé que ce sont les plus pauvres qui risquent de pâtir le plus d'une guerre commerciale annoncée. Les dirigeants européens ont appelé à rester unis et solidaires. Les utilisateurs en Ouganda de WhatsApp, Facebook, Skype et autres réseaux sociaux devront à partir de juillet s'acquitter d'une taxe quotidienne de 0,5 $. C'est en vertu d'une nouvelle législation que rejettent les défenseurs des droits de l'homme qui voient une tentative d'étouffer la liberté d'expression. La même loi impose aussi une nouvelle taxe de 1% sur les transactions monétaires par téléphone portable. Un nombre d'Ougandais recourt à ce moyen en raison de la difficulté pour accéder aux services bancaires traditionnels. L'Angola bénéficiera d'un portefeuille d'investissement de plus de 1,16 milliard de dollars. C'est un financement obtenu de plusieurs partenaires économiques à l'issue de la visite du président angolais à Paris. L'enveloppe sera injectée dans plusieurs secteurs, l'agriculture, le commerce, le pétrole et la formation. Luanda a également annoncé un accord avec l'opérateur Total pour l'exploration et la distribution de produits pétroliers et l'octroi de 50% d'études à de jeunes Angolais qui désirent poursuivre des formations dans le secteur des hydrocarbures.
Les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Préparation du Mondial 2018, le Maroc a été tenu en échec par l'Ukraine.
Les Lions de l'Atlas ont buté sur l'Ukraine hier 0-0 pour leur premier match de préparation. Associé à Younes Belanda Harit, transféré l'été dernier du FC Nantes à Schalke 04 et désigné cette saison meilleur rookie de la Bundesliga, a montré qu'il faudrait bien compter sur lui en Russie. Le Maroc a choisi la station suisse de Crans Montana pour parfaire sa préparation. Il va se mesurer lundi à la Slovaquie. Un troisième match de préparation est prévu le 9 juin face à l'Estonie, avant une entrée en matière dans le mondial russe qui pourrait être décisive le 15 juin face à l'Iran.
Le Sénégal a aussi buté sur le Luxembourg.
En quête de confiance, après ses pâles sorties de mars contre l'Ouzbékistan 1-1, puis la Bosnie 0-0, le Sénégal n'a pas réussi à se rassurer hier face au Luxembourg. 0-0 également pour son premier match de préparation au mondial 2018. Les Lions ont largement dominé la modeste 83e nation au classement FIFA, mais ne sont pas parvenus à prendre les devants faute d'efficacité. Sans Mané, dernier arrivé au rassemblement après la finale de Ligue des Champions, les hommes d'Aliou Cissé ont notamment touché les montants à deux reprises. Il faudra faire mieux lors du prochain match amical, le 8 juin contre la Croatie, un adversaire d'un tout autre calibre.
Bonne nouvelle pour le Pérou, Guerrero va pouvoir disputer le mondial.
Le tribunal fédéral suisse, devant lequel le capitaine du Pérou a fait appel de sa suspension pour dopage, a accordé l'effet suspensif à son recours contre la décision rendue par le tribunal arbitral du sport. Le tribunal fédéral suisse, qui n'a pas encore reçu les motivations de la décision du TAS, jugera sur le fond après le mondial. Le Pérou, versé dans le groupe C, affrontera la France, le Danemark et l'Australie. D'abord suspendu 6 mois pour un contrôle positif à la cocaïne, Guerrero a fait appel de cette décision, demandant son annulation. Basketball pour finir, ici aux États-Unis avec vous Idrissa, le résultat du premier match de la finale NBA entre Cleveland et Golden State.
La superstar de Cleveland, LeBron James a écrit une nouvelle page de sa légende jeudi avec ses 51 points dans le premier match de la finale NBA. 51 points qui ont fait trembler jusqu'en prolongation Golden State, finalement vainqueur 124 à 114. Les Warriors, champions en titre et grands favoris à leur propre succession, mènent une victoire à zéro comme largement anticipé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, le oui a été, sans surprise, confirmé comme résultat définitif du référendum du 17 mai dernier par la Cour constitutionnelle à plus de 73%. Selon le président de cette cour, aucune irrégularité n'a été constatée car le vote du référendum s'est déroulé normalement. L'opposition, pour sa part, dénonce une cour constitutionnelle au service, dit-elle, du parti présidentiel, tout comme la CENI, après que le recours d'une coalition de deux partis de l'opposition a été jugé sans fondement. Mais beaucoup de Burundais interrogés dans la capitale disent ne pas être surpris par ces résultats. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Au moment où le président de la Cour constitutionnelle du Burundi validait quasiment les chiffres proclamés par le président de la CENI après le référendum du 17 mai dernier avec lui, qui gagnait avec 73,24% pour la révision constitutionnelle et 19,35% pour le non, rares étaient les filles et femmes qui acceptaient de répondre au micro de VOA Afrique. Pour elles, les oui devaient nécessairement gagner. Certains habitants de la capitale ont accepté de donner leur point de vue.
La Cour constitutionnelle et la SOR a décidé de la légalité des élections. S'il y a d'autres qui disent que c'est pas légal, il y a d'autres voies de recours et c'est la seule Cour constitutionnelle du Burundi qui valide les élections.
On a voté oui au lieu de non parce qu'on a pu de près ça ici, sur le pouvoir actuel.
Moi, je vois rien de surprise parce que avec la CENI actuelle, je pense qu'il ne pourra pas y avoir de changement parce que c'est l'outil du gouvernement, la CENI. Comme on le remarque, comme c'était en 2015, avec les élections de 2015, ça se voyait que la CENI travaille avec le gouvernement, raison pour laquelle ça pouvait pas changer.
Les membres de cette cour ont été nommés par le président de la République. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que le président de la République a perdu? C'est impossible.
Ils sont nommés par le gouvernement. Alors, la plupart du gouvernement, ce sont les participants dans ces partis politiques, la CNDD-FDD, alors qui est proposé de changer sa constitution, raison pour laquelle ça ne me tient pas. Bien sûr qu'il m'a déjà même table en partageant quelques biens de l'État.
Non, c'est une cour constitutionnelle, c'est comme un service d'autorégulation, ça devrait être ainsi, il devrait prendre du temps, mais vu que le oui a gagné plus de 70%, même on pourrait ajouter plus d'autres encore.
Ces quelques avis et considérations des habitants de la capitale rejoignent les opinions des hommes politiques de l'opposition, tandis que le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, clamait tout haut son immense joie avec la victoire de la démocratie au Burundi. Pour Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Front pour la démocratie au Burundi, Frodebu, ces résultats référendaires enterrent une fois pour toutes les acquis de paix, de stabilité, de réconciliation nationale et de développement du pays signés entre tous les protagonistes burundais en 2000 à Arusha en Tanzanie sous la médiation de feu Nelson Mandela. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, de nombreux candidats s'annoncent au sein de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre prochain, tandis que d'autres appellent au regroupement et à une candidature unique. Eddy Isango a interviewé sur la question Freddy Mutungulu, le candidat du parti Congo Nabisso.
Pour le moment, chaque regroupement a son candidat, tout à fait normal, mais comme vous le savez, nous sommes en train de travailler ensemble pour trouver la méthodologie et les moyens qui nous permettraient d'arriver à la présentation d'une candidature commune de l'opposition à la prochaine présidentielle. Nous avons mis en place une équipe technique qui a fini la préparation d'une charte devons définir un peu nos obligations dans le cadre de ce processus. Et je crois que quand je serai de retour tout à l'heure au Congo, nous allons continuer le travail technique et on aura des réunions au niveau des chefs de regroupement politique pour faire aboutir ce processus. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à mettre en place cette candidature commune d'opposition pour la prochaine présidentielle.
Et vous-même, vous êtes candidat pour votre parti, le Congo Nabisso, et puis pour votre plateforme.
Tout à fait. Mon parti, comme vous le savez, c'est Congo Nabisso, CNB. Et le regroupement politique que nous avons mis en place s'appelle SIENCO, la synergie électorale Notre Congo. Et nous allons partir comme représentants.
Vous parlez de l'ensemble de l'opposition, mais on vous voit plutôt aller avec l'UNC et les MLC.
Mais vous vous rappellerez que lorsque les différents groupes se sont retrouvés la dernière fois, il y avait des représentants évidemment de l'Union pour la Nation, du MLC, de Congo Nabisso et SIENCO, mais également ceux de l'UDPS et d'ensemble. Je crois que pour le moment, dans cette vision, la mise en place d'une candidature commune de l'opposition, nous sommes en train de travailler ensemble.
On entend de plus en plus de voix qui s'élèvent au sein de la majorité présidentielle, disant que Kabila devrait briguer un autre mandat. Il se base sur le fait que certains fondamentaux de la Constitution ont été touchés par des réformes. Comment réagissez-vous?
Bon, ben ça, c'est une démarche qui n'a aucun fondement. C'est ce que nous disons. Nous travaillons sur la base de la Constitution comme nous la connaissons, amendé bien entendu en 2011, mais qui indique clairement que le président de la République fait un mandat qui peut être renouvelé une seule fois et qu'au-delà, on n'est plus éligible. C'est le cas de Kabila. Il a terminé son second et dernier mandat et en ce qui nous concerne, il est peut-être question qu'il puisse se représenter.
On est pratiquement au mois de juin, ce qui signifie dépôt de candidature pour la députation et en juillet pour la présidentielle. Pensez-vous que réellement on aura des élections le 23 décembre?
Cette fois-ci, nous avons un calendrier électoral. Nous n'avons pas besoin d'attendre décembre pour savoir si oui ou non on aura cette élection.
C'était Freddy Mutungulu du parti Congo Nabisso.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Que peut apprendre le Burkina Faso du système de dialogue politique au Danemark? Une délégation de représentants des partis politiques au Parlement a séjourné à Copenhague du 12 au 19 mai. Ils viennent de remettre le rapport sur leurs conclusions au président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore. L'opposant et ancien ministre Ablassé Ouédraogo faisait partie de la délégation. Joint par Bagassi Koura, il revient d'abord sur les raisons de leur voyage au Danemark.
Si nous avons eu l'opportunité donc d'aller à Copenhague, c'était tout simplement pour vivre avec les Danois le déroulement du processus démocratique dans leur pays. Et nous avons beaucoup appris. Et très simplement, nous sommes revenus avec la conviction, et c'est eux qui nous l'ont dit, la démocratie, c'est l'art de se mettre d'accord sur les désaccords. C'est tout un programme. Et nous avons appris aussi que pour qu'il y ait démocratie, il faut de la stabilité. Et pour qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait du dialogue. Et c'est par le dialogue, par la négociation, par le consensus qu'on se met d'accord sur l'essentiel des programmes, si bien que même en cas d'alternance, même en cas de changement d'homme, ce qui est essentiel pour le pays demeure. Et c'est ça la stabilité. C'est ce que nous avons appris pendant notre séjour.
Un rapport a été remis au chef de l'État concernant donc ce jour à Copenhague. Quelles peuvent être les prochaines étapes?
Je pense qu'il faut travailler à ce que le dialogue politique au Burkina Faso devienne une réalité. Il faut restaurer la confiance entre les Burkinabés et le chef de l'État, de par ses prérogatives constitutionnelles étant le garant de l'unité nationale. Nous l'avons rencontré donc ce matin et le chef de l'État s'est engagé à aller de l'avant. Il a indiqué sa disponibilité donc à accompagner le processus qui est, j'allais dire, lancé. Et je pense que l'étape de Copenhague aura été d'une grande utilité pour la restauration d'une confiance, la restauration d'un respect de depuis au Burkina Faso.
On parle d'une première phase de 6 mois.
Et ça, c'est le programme. C'est le programme que les Danois se proposent de nous offrir pour accompagner le processus. Donc, c'est une période au cours de laquelle beaucoup d'actions aideront à développer le dialogue entre les Burkinabés. Pour la majorité des Burkinabés, la réconciliation est une impérieuse nécessité. Et de ce fait, avoir la chance d'organiser la réconciliation nationale et remettre les Burkinabés ensemble et les remettre au travail, c'est une perspective très heureuse pour notre pays.
Joint à Ouagadougou, l'opposant et ancien ministre burkinabé Ablassé Ouédraogo.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Les États-Unis ont imposé à l'Union européenne, au Mexique et au Canada d'importantes taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. À partir d'aujourd'hui, Washington met en place des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. L'UE et le Mexique promettent des représailles. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Matelli.
Je crois qu'on est toujours dans cette logique de Washington de pousser les Européens, les Canadiens, les Mexicains à aller dans la direction où souhaitent les faire aller les États-Unis. Donc ce qu'il faut en conclure, c'est que finalement, les partenariats traditionnels, les ententes traditionnelles, les alliances traditionnelles n'ont pas grande de valeur pour l'administration américaine qui est aujourd'hui en place. On peut punir ses plus proches alliés, c'est pas très grave, et puis on va s'entendre avec des pays qui à la base sont considérés plutôt comme des concurrents, voire comme des menaces. Et pourquoi les États-Unis font ça? Eh bien, très probablement parce qu'ils ont tiré la conclusion qu'au fond, ce sont des pays calmes, entre guillemets. Ce n'est pas des pays qui vont imposer des rétorsions. Ce n'est pas des pays qui sont très dangereux pour les États-Unis. Donc, on tape et puis on attend de voir ce qui va se passer, mais on n'a pas trop de crainte quant à ce qui pourrait se passer en termes de rétorsions.
Est-ce que c'est une stratégie qui va payer pour Washington? Parce que le secteur de l'automobile va aussi être atteint.
Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne stratégie, mais quelque part, ça peut fonctionner aussi, hein, et on peut se tromper aussi. Si les Européens ne sont pas unis pour réagir, si les Européens ne se positionnent pas, si les Canadiens ou les Mexicains ne se positionnent pas et ne s'opposent pas à ces mesures, bah, les Américains auront tout gagné en réalité. Ils auront taxé l'acier, il n'y aura aucune, donc protéger ce secteur aux États-Unis avec des conséquences qui seront relativement mineures pour leur économie. Alors encore une fois, tout est relatif, puisque si le président Trump évoque ensuite, après l'acier, la question de l'automobile, c'est parce que bien évidemment, le secteur automobile américain va souffrir de ce protectionnisme sur l'acier et que finalement, le président américain se dit « mais qu'à cela ne tienne ».
Est-ce que l'Union européenne a les moyens de répondre à ces mesures de Washington? Quels sont les produits américains, par exemple, qui souffriraient?
On avait parlé des Harley Davidson et beaucoup avaient rigolé, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble de secteurs d'activité qui peuvent être touchés et choisis par l'économie européenne. L'Europe est le premier partenaire commercial des États-Unis et vice-versa. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe en dehors des pays européens en tant que tels. Donc bien évidemment, quand on a des relations commerciales aussi importantes, des mesures de protection peuvent faire du mal des deux côtés et les deux parties ont les armes pour se protéger.
C'était de Paris l'économiste Sylvie Matelli.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Linden dans L'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Dans
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'allaitement maternel par les femmes vivant avec le VIH-SIDA.
L'Organisation mondiale de la santé recommande d'allaiter les nouveau-nés exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie. Pour les femmes vivant avec le VIH, certaines précautions s'imposent cependant.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin généraliste en RDC. Il nous dira ce qu'il faut faire pour réduire les risques de transmission du virus entre la mère et son enfant.
Nous écouterons le témoignage d'une mère séropositive qui allaite son enfant au lait maternel. Nous écouterons aussi un représentant du gouvernement congolais en charge de la santé des enfants.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Ariel Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.